à voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, nous réécoutons la rencontre en 2014 entre Sébastien Le Foll et Jean d'Ormesson qui vient de nous quitter. En partenariat avec Le Point. Ce soir, presque rien sur presque tout.
L'œil bleu lagon qui frise, pieds nus dans ses mocassins, le nez de guingois, le teint invariablement hâlé, amoureux des livres, des femmes et des bains de mer, il manie coquetterie et espièglerie avec dextérité. Ainsi Arnaud Ramsay décrit-il l'invité d'Avoix Nues cette semaine dans la biographie qu'il lui a consacrée aux éditions du Toucan. Tout le monde aura reconnu Jean d'Ormesson. Bonjour Jean d'Ormesson.
Bonjour.
Est-ce que vous retrouvez en général dans ce qu'on écrit de vous ?
Je dois vous dire que j'hésite beaucoup à lire ces livres. Ça me gêne un peu. J'ai l'impression que on a un pied dans la tombe quand on lit une biographie sur vous.
Vous bénéficiez malgré tout d'une grande indulgence, non ?
Oui, je bénéficie d'une grande indulgence. Je viens de lire un article dans un journal communiste qui est la Marseillaise. Et le compte-rendu de mon dernier livre est ce que je pouvais rêver de mieux.
Quelle est la pire chose qu'on a écrite sur vous ?
Oh, on a écrit des choses terribles. Je m'en rappelle.
La pire et la plus juste en même temps.
Ah oui, mais peut-être que je n'exclus pas que la pire soit la plus juste. Je ne l'exclus pas. Je me rappelle Rinaldi.
Angelo Rinaldi.
Angelo
oui.
Rinaldi, mon confrère et ami maintenant à l'Académie.
Française.
Alors Rinaldi de moi avait dit, on me dit, c'était déjà il y a quelques années, on me dit que Jean d'Ormesson a un public de lecteurs très étendu. C'est bien possible. Mettons que ce soit un homme du monde aux dimensions nationales et n'en parlons plus.
Vous n'en avez pas marre, Jean d'Ormesson, qu'on vous présente comme l'écrivain du bonheur. Ça ne fait pas un peu ravi de la crèche, hein ?
Mais comment ? Ça m'épouvantait. Ça m'a épouvanté beaucoup. Surtout que il y avait quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et même d'affection un peu lointaine, qui était la comtesse de Paris, qui écrivait un livre, Tous mes bonheurs. Et alors, évidemment, je me disais, il y a deux écrivains du bonheur, c'est la comtesse de Paris et moi. Ça me troublait un peu. Ce qui est intéressant, c'est que mon dernier livre, un jour je m'en irai sans en avoir tout dit, beaucoup de critiques ont dit que c'était un livre crépusculaire et un testament. Alors vous voyez, ça c'est quand même très, très élogieux. Si mon spectre littéraire va de l'écrivain du bonheur à l'écrivain crépusculaire, c'est vraiment que je couvre l'ensemble du spectre littéraire. Moi, je prétends que ce livre, qui parle un peu de la mort, est un livre en même temps très gai. Et j'ai toujours été assez gai dans mes livres.
Mais c'est vrai que si on prend un écrivain aujourd'hui connu, qui est respecté par la critique, Michel Houellebecq, lui, c'est le versant nord,
ah oui.
Glacé,
c'est
l'ombre, et vous, c'est le soleil.
C'est l'opposé. Évidemment, c'est l'opposé. Ça finit par tisser, je me vante un peu encore, ça finit par tisser les liens entre nous. C'est l'opposé exact. C'est l'opposé exact.
Vous trouvez que la littérature française déprime ?
Je vais vous répondre en citant quelqu'un que j'aime beaucoup, à qui je dois beaucoup, qui est Bernard Pivot, qui m'a dit un jour, tu as quand même de la chance d'avoir l'âge que tu as à notre époque. Si tu avais eu 60 ou 70 ans en 1930, personne n'aurait parlé de toi. Personne n'aurait parlé de toi. Il y avait Valéry, Gide, Proust. Proust était mort. Mais enfin, au début du siècle, il y avait Proust, Valéry, Gide. Tout à fait au début du siècle, Péguy, Martin Dugard, Aragon, Morand, Mauriac, Monterland. Enfin, non, je n'étais plus. Il y avait 150 personnes, peut-être pas 150, mais il y avait certainement 50 grands écrivains, et en tout cas 20 écrivains du premier rang. Je n'aurais pas compté du tout. Aujourd'hui, comment dire, la concurrence est moins forte.
Alors vous avez l'habitude de répéter cette phrase que vous aimez beaucoup, Jean d'Ormesson, « Pour la modestie, je ne crains personne. »
Vous savez, je crois que c'est une formule d'un cardinal espagnol au XVIe siècle qui m'avait beaucoup plu. pour la modestie, je ne suis pas personne.
Et quand vous vous comparez aux écrivains vivants, aux écrivains de votre génération, qu'est-ce que vous dites ?
Écoutez, je n'ai aucune réserve. Il y a des écrivains que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup. Modiano est un merveilleux écrivain. J'aime beaucoup Déon. Qui écrit des livres merveilleux. J'aime beaucoup un écrivain comme Quignard. Je regrette beaucoup que Quignard ne soit pas à l'Académie. Quignard mérite largement l'Académie. Il y a beaucoup d'écrivains. Claude Lanzmann. Donc, il y a vraiment des gens. Il n'y a pas cette efflorescence qu'il y avait au début du siècle. Ce qu'on peut dire de plus simple, c'est que quand j'avais 10 ans, ou quand j'avais 5 ans, le flot des traductions était d'Europe vers l'Amérique. Et aujourd'hui, c'est effrayant, l'inversion. Les flots de traductions sont d'Amérique en Europe. C'est très rare qu'un écrivain français, ou d'ailleurs un écrivain européen, soit publié un romancier soit publié en Amérique, alors que les romans américains sont innombrables et qu'il y a des romans africains excellents, des romans sud-américains que j'admire beaucoup, des romans japonais sans nom, naturellement Mishima, mais quelqu'un comme Inoue. Je ne sais pas si vous vous rappelez Inoue, des livres comme Le fusil de chasse, c'est un livre magnifique, ou le loup bleu ou le loup blanc, qui est une biographie de Gengis Khan, c'est des livres magnifiques, magnifiques. Donc, il est bien clair que la France a perdu. La langue française a perdu la place dominante qu'elle avait il y a 100 ans. Et ça s'est passé en une semaine de mai 40. Nous ne sommes jamais revenus là-dessus. La grandeur du général de Gaulle, c'est d'avoir forcé la France à reprendre sa place dans le concert des nations, comme on disait, mais le coup a quand même été très très dur. Nous avons été indissolublement écrasés et remis dans le camp des vainqueurs par le seul général de Gaulle.
Ce qui vous a toujours caractérisé, hein, Jean d'Ormesson, c'est votre répugnance à parler de vos bleus à l'âme, vos petits et grands bobos. Et pour la première fois cette année, on vous a entendu évoquer publiquement votre maladie.
Oui, je vais vous dire, il y a une formule de Vauvenargues, je crois, que j'aime beaucoup, c'est « Il est indigne des grandes âmes de faire part des troubles qu'elles éprouvent ». Ce n'est pas que je me prenne pour une grande âme, non, pas du tout. Mais je trouve que c'est irritant de parler de soi. Et depuis 6 mois ou 8 mois, j'ai beaucoup parlé de moi parce que, j'ai eu une maladie terrible et j'ai été hospitalisé pendant 8 mois. Et ça a été évidemment assez dur. Et en même temps assez enrichissant. D'abord, parce que j'ai admiré beaucoup encore cette capacité d'admiration qui est si étonnante à notre époque où la dérision l'emporte de très loin sur l'admiration. J'aime beaucoup le jeu de la dérision, mais je suis aussi capable d'admiration et j'ai beaucoup admiré le système hospitalier français. J'ai été soigné par des gens admirables. Le professeur Hanoun, mon chirurgien, est un être d'exception, une espèce de géant de la médecine, les grands médecins, aujourd'hui encore des mandarins comme Bernard Debré, le professeur Stegg, qui est le fils du grand urologue et qui est un cardiologue, Lyon Kant, Fragide, Jean-Didier Vincent, tous ces grands médecins, c'est des gens pour qui j'ai une admiration sans bord.
Est-ce que vous avez vu votre dernière seconde arriver ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, c'est très curieux. Pendant ces 8 mois, j'ai eu une seule idée en tête, guérir. Je n'ai aucune autre idée, guérir. Et Alors après, j'ai été très étonné, parce que j'ai vu des amis à moi qui ont été exquis, mais qui m'ont dit, tu sais, on ne donnait pas cher de ta peau. Ah bon? Oui, je crois qu'ils m'ont vu disparaître.
Vous avez peur de la mort?
Non, pas du tout. Je crois que dans mon livre, je dis, j'attends ma mort sans impatience, mais avec une humble espérance. Voilà, c'est ça. Un de mes thèmes favoris, vous savez, c'est... je ne sais pas si on abordera ce problème, pour dire les choses très vite, je n'ai pas une foi très ancrée. J'ai beaucoup de doutes quand je me présente comme un catholique agnostique. Quand je vois que Mère Teresa a eu sans cesse des doutes dans sa vie, ça me rassure. Donc, ce que j'admire le plus, chez les gens, c'est les gens qui ne croient pas en Dieu et qui font du bien aux autres. Je me dis que s'il y a quelqu'un qu'on mettra à la droite de Dieu, c'est un athée qui a fait du bien aux autres. Pourquoi ils font du bien aux autres ? Si nous le faisons, ce n'est pas uniquement parce que nous croyons qu'il y a un autre monde. Mais quand même, on se dit, si je me conduis bien, j'ai une chance d'entrer dans la vie éternelle. C'est évidemment éclatant dans l'islam, encore bien plus que chez les chrétiens. Mais enfin, même les chrétiens, ils pensent à la vie éternelle. Un athée n'a aucune récompense, aucune. Et il fait du bien. À la droite de Dieu, il y aura un athée. Et les gens que j'admire le plus, c'est les gens de gauche qui ne croient pas à Dieu. Je ne sais pas, il y a des noms qui viennent à l'esprit, comme des gens que j'admire éperdument, comme Lioncamp, Olivier Lioncamp, ou Jean-Didier Vincent, qui sont ouvertement athées et qui sont toujours prêts à soigner les autres. Voilà, c'est ça. Vous savez, je crois que peut-être on a compris que j'étais bourré de contradictions. Je suis une espèce de gaulliste européen. Je suis un homme de droite qui croit fondamentalement à l'égalité des gens. Un catholique agnostique et un homme de droite qui se sent quelquefois très proche des gens de gauche.
Et un grand vivant qui n'a pas peur de la mort.
Non, j'ai pas peur de la mort, non. Vous savez, mourir ne doit pas être gai. Hein. Ça ne doit pas être gai. J'ai pas l'impression d'avoir été aux portes de la mort. Mais j'ai eu des nuits très, 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 très dures. J'ai eu, à la suite du traitement et à la suite des anesthésies, des choses un peu étranges, qui sont des hallucinations. Vous savez, quand Michaud, les surréalistes, prenaient des drogues pour... C'est un peu ce qui m'est arrivé. Et j'étais dans ma chambre d'hôpital, les yeux ouverts, comme je suis maintenant. Et je disais à ma femme ou à mes amis qui étaient là, écoutez, quand même, dites un mot à Hollande. Hollande s'est déplacé pour moi, remerciez-le. Alors on m'expliquait que Hollande n'était pas là. Et puis je disais à l'ambassadeur d'Allemagne, je viens de voir un film très intéressant avec l'ambassadeur d'Allemagne. Je racontais le film. Ni le film, ni l'ambassadeur d'Allemagne n'avaient jamais existé, naturellement. À un moment donné, j'ai dit à mon infirmière, maintenant, il faut que je m'habille, il faut que j'aille en Sorbonne. Il faut que j'aille faire un cours sur Spinoza. Et alors, je pars pour la Sorbonne, je prononce quelques paroles, je pense que c'est 3 minutes, j'ai l'impression que c'est 1 heure, sur Spinoza. Je dis à mon infirmière, est-ce que mes auditeurs ont été étonnés ? Oh oui, monsieur, très étonné, elle me dit. Et je lui dis, maintenant, je voudrais retourner dans ma chambre. Et elle me dit, mais vous y êtes. Alors, vous savez, c'est un espèce de... J'ai eu un choc parce que cette existence fausse avait exactement les caractéristiques de la vraie. Je ne savais pas laquelle était la vraie et laquelle était la fausse. Ça, c'est quand même des souvenirs.
C'est la littérature, ça.
Mais oui, c'est très proche de la littérature. C'est très proche de la littérature. Dans mon dernier livre, un jour, sans en avoir tout dit, il y a un personnage qui est un bouddhiste qui va devenir communiste, qui va devenir gaulliste et qui va faire une très grosse fortune dans les Trente Glorieuses. Et plusieurs personnes m'ont écrit en disant, je l'appelle pas ma Carpo, et plusieurs personnes m'ont écrit en disant, je crois que j'ai rencontré pas ma Carpo, j'aimerais bien le retrouver, est-ce que vous avez ses coordonnées? J'ai dit, je peux pas vous donner ses coordonnées, je l'ai entièrement inventé.
Si vous pouviez choisir, décider du scénario de votre mort, ça ressemblerait à quoi?
Mon Dieu, j'aimerais, vous savez, ça aussi c'est bien intéressant. Quelquefois je me dis, comme beaucoup de gens, j'aimerais mourir sans m'en rendre compte. Et vous savez que ma grand-mère faisait une prière pour éviter la mort subite. Pour éviter la mort subite. Pourquoi? Mais pour se préparer. Pour se préparer. L'idée que nous puissions nous préparer à la mort dans nos derniers moments, c'est quelque chose qui nous est devenu assez étranger, n'est-ce pas?
Est-ce que vous êtes ennuyé dans la vie?
En réalité, non, je m'ennuie assez peu. Ce qui est vrai, c'est que j'ai passé pour être très mondain et j'ai eu une époque où j'ai été en effet assez mondain. J'étais ami des Agnelli. J'ai eu beaucoup d'admiration pour un type comme Agnelli, qui était évidemment très intelligent, très playboy, qui avait toutes les femmes derrière lui.
Quelle est la tentation à laquelle vous avez le plus cédé?
Oh ben c'est celle-là. Quand j'étais jeune, vraiment, j'aimais beaucoup les chemises, les souliers, les voitures avec des longs capots. J'en ai quelques restes. Il y a une Mercedes. Là, qui a
votre 30, fameux coupé
elle a
Mercedes.
30 ans, oui. Elle a 30 ans. Mais elle marche très bien parce qu'elle n'a pas d'électronique. Elle n'a pas d'électronique, donc elle marche. Évidemment, maintenant, ça me paraît un peu superficiel. J'ai beaucoup été en Italie pour acheter des paires de chaussures chez un bottier qui s'appelait Gatto, qui était le fournisseur du roi d'Italie et qui faisait des souliers formidables. Alors maintenant, ça me fait rire. Et pendant que j'allais à Rome, j'achetais les souliers, mais j'allais voir aussi le forum, et j'allais et l'idée d'écrire au plaisir de Dieu m'est venue en partie à Rome, devant une église qui s'appelle San Giovanni a Porta Latina. Et San Giovanni a Porta Latina est le patron des typographes. C'est le patron des typographes. Et à côté, il y a un baptistère et il y a sur le linteau une inscription française « Au plaisir de Dieu ». C'est là que j'ai trouvé, parce que j'achetais des chaussures chez Gatto, que j'ai trouvé le titre de mon livre « Au plaisir de Dieu ».
Mais s'il y a une ville qui vous ressemble, c'est davantage Venise, non?
Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Rome, vous savez. J'ai beaucoup aimé Rome. J'ai aimé Rome beaucoup. Vous vous rappelez Vacances romaines? Il y avait Audrey Byrne et lui, c'était Gregory Peck. Et elle a une aventure avec lui. Et en même temps, elle fait ses devoirs de princesse. Et les journalistes lui disent, quelle est la plus belle ville d'Italie? Et elle dit, toutes les villes d'Italie sont admirables, merveilleuses. Et puis elle se rappelle Gregory Peck. Elle dit, Rome, definitely Rome. Alors j'ai beaucoup aimé Rome. Et évidemment, j'ai beaucoup aimé Venise. Il y a eu quand même une espèce de charme italien et de beauté. Cette inexplicable beauté. Il y a des choses que vous ne pouvez pas expliquer, ni la vérité. Vous savez, quand on réfléchit à la vérité, on voit qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. À la fin du 19e siècle, il y a un grand savant qui s'appelle Berthelot, qui était un parent du Berthelot des affaires étrangères, qui dit « la science est arrivée au bout ». Et un grand savant anglais qui s'appelait Lord Kevin, qui dit « nous ne découvrirons plus rien ». 20 ans après, c'était Einstein, la relativité, le quantique, Hubble, l'univers, le Big Bang, enfin, une révolution formidable. Et il faut bien se dire que nous qui admirons tellement Einstein, Hubble, Freud, nous aurons aussi un moment où Einstein, Freud et Hubble apparaîtront comme Ptolémée ou tous ces astronomes du passé qui ont été dépassés. Naturellement, la vérité d'aujourd'hui ne sera pas la vérité de demain. Et on peut se demander, quand nos ancêtres étaient en Afrique, Est-ce que l'idée de vérité avait un sens pour eux ? Aucun sens pour eux. J'ai vu hier Reeves, et il a eu une formule formidable. Et il a dit, c'est bien intéressant de se demander si 2 et 2 faisaient déjà 4, quand il n'y avait personne pour le penser. Il y a des formules comme ça, on me reproche des formules, c'est parce que les gens disent les choses merveilleusement, la formule de Reeves est magnifique. Est-ce que 2 et 2 faisaient déjà 4 quand il n'y avait personne pour le penser ? Ou cette formule de Jankélévitch que j'ai tellement aimé, j'ai beaucoup aimé Jankélévitch, j'ai beaucoup aimé mes maîtres en général. Et la formule de Jankélévitch était « La vie est éphémère ». Mais le fait d'avoir vécu cette vie éphémère est un fait éternel. Vous savez, vous pouvez réfléchir là-dessus.
Les gens de droite sont souvent pessimistes. Ils ne sont pas loin de penser que le pire est toujours certain.
Oui.
Vous, au contraire, vous semblez être un inguérissable optimiste.
Je suis terriblement optimiste. Et par exemple, je suis... C'est bien intéressant ce que vous dites. Si on avait le temps, on pourrait parler de l'idée de progrès. L'idée de progrès est une idée de gauche. Ça vient avec les Lumières, ça vient avec Voltaire, Diderot, Victor Hugo. Le mot qui revient le plus souvent dans Victor Hugo, c'est l'aurore. Marx, les lendemains qui chantent. Le progrès, c'est à gauche. Et mes arrière-grands-parents se méfient horriblement du progrès. Eh bien, aujourd'hui, on voit que le progrès n'est plus une idée de gauche. Les écologistes et les verts se méfient du progrès. Et le progrès peut être récupéré par une partie de la droite. C'est curieux, hein, ça, comme aventure. Et moi, je crois encore au progrès. Je pense que, par exemple, on dit la violence. Eh bien, je crois que la violence qui est si forte aujourd'hui... parce que, notamment, nous la connaissons par les médias, est bien moins forte que jadis. Et même la dernière guerre, qui a fait peut-être 100 millions de morts, quelque chose comme 100 millions de morts, en tout comptant, les gulags, les camps de concentration, Auschwitz, il y a des études qui ont montré que, proportionnellement à la population, la guerre de 30 ans, la guerre de 100 ans, et peut-être la guerre du Péloponnèse, dont parle Thucydide, chère à Madame de Romilly, était plus meurtrière que la Deuxième Guerre mondiale. Parce que vous avez 100 millions de morts, mais nous sommes 7 milliards sur la planète. En Grèce, ils étaient peut-être 2 ou 3 millions, et ils ont eu peut-être la moitié de la population qui est morte. Le siècle de Périclès, qui nous paraît comme le printemps de l'humanité, c'est pas avec Sophocle, Échille, tous ces génies incroyables. C'était sans cesse. Athènes était assiégée par Sparte et finira par tomber. La violence décroît dans le
monde. Mais est-ce que ce n'est pas cette mémoire longue qui nous fait défaut aujourd'hui ?
Mais comment ? Il y a deux choses qui nous font défaut. Et peut-être que c'est lié. D'une part, la mémoire longue, nous oublions l'histoire. Et d'autre part, l'espérance en l'avenir. C'est incroyable comme on n'espère plus rien maintenant, notamment en France. Vous savez qu'il y a des études qui ont montré que les Français étaient plus pessimistes que les Afghans et que les Irakiens. Alors vraiment, le monde est pessimiste, mais à l'intérieur du monde, l'Europe est pessimiste. Évidemment, elle n'occupe plus la place qu'elle occupait jadis. Et à l'intérieur de l'Europe, les Français sont extrêmement pessimistes. Il faut réapprendre à se souvenir du passé et à espérer en l'avenir.
Plutôt que l'écrivain du bonheur, ne seriez-vous pas donc l'écrivain de l'espérance ? C'est ça que vous aimeriez que la postérité retienne ?
Oui, absolument. Vous savez, j'étais passé dans une émission de Bunel, la grande librairie, avec quelqu'un pour qui j'ai une grande affection et beaucoup d'admiration, qui est Trinh Tuan Tuan, l'astronome. Et il y avait là aussi des amis à moi comme... Pontalis. Et j'avais dit sous les ricanements de tout le monde que j'étais en réalité un mélancolique gai. Mais c'est vrai qu'une de mes caractéristiques, c'est à côté de cette mélancolie, c'est l'espérance. Et peut-être derrière l'espérance, il y a quelque chose en quoi je crois beaucoup. Et qui est l'amour. C'est très difficile de parler de l'amour. L'amour a été tellement mis à toutes les sauces, dans les romans, dans les chansons, dans les pièces de théâtre, au cinéma, qu'on finit par se dire on ne peut plus parler de l'amour. Mais l'amour, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est comme le ciment du monde. La dernière phrase de la Divine Comédie, c'est une phrase magnifique. La mort, che muove il sole e l'altre stelle. L'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Dante, c'est-à-dire que Dante avait déjà prévu l'attraction de Newton. Et l'attraction, on peut dire sans exagération que c'est une sorte d'amour, que les quatre forces, les fameuses quatre forces, nucléaire forte, nucléaire faible, les quatre forces de la physique, c'est une forme d'amour. Le monde tient par une gravitation, par des choses qui... C'est très frappant. Par un système qui est réglé tellement étroitement que si vous changez un degré ou un millimètre, tout s'écroule. C'est quand même très difficile de penser que le hasard est seul à avoir fait cet équilibre si précieux, si ajusté, et qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à l'amour. Et l'amour physique est peut-être à cet amour cosmique ce qu'est le temps à l'éternité. Il y a un peu d'éternité dans le temps qui passe. Il y a un peu d'éternité. La formule fameuse de Platon, le temps, c'est l'image mobile de l'éternité. Et bien cette éternité, cette force qui tient les choses ensemble, ce qui jette les gens les uns vers les autres, ce qui fait tourner les étoiles, c'est quand même quelque chose qui ressemble à l'amour.
Cette rencontre en 2014 entre Sébastien Le Foll et Jean d'Ormesson qui vient de nous quitter. En partenariat avec Le Point. À voix nue, réalisation Anne de Pelchin, prise de son Benjamin Thuot, coordination Claire Poinsignon. À voix nue, s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.